Eh bien, bonjour, vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, à l'émission L'invité de Chronique Hebdo. Et ce matin, nous avons avec nous Claude Guyon. Claude, ou Claude, je ne sais pas, moi avec mon accent méditerranéen, comme on dit, vraiment. Voilà, donc nous sommes le 7 octobre, l'invité de Chronique Hebdo va commencer avec notre invité à qui nous allons offrir de parler à notre micro.
Qui va en quelque sorte être le grand chef, hein, et c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, Radio Libertaire. Pendant une heure et demie, jusqu'à 9h30, nous avons imaginé que, au fond, notre invité proposerait et présenterait ce qu'il a souhaité faire, et que nous ne serions que, j'allais dire, des comparses, et que éventuellement.
On va voir ça.
Il pourrait nous dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce que je suis en train d'exposer. Alors, Claude Guyon, tu te présentes, puis tu présentes ton bouquin.
Alors, je suis écrivain, j'ai l'habitude de me présenter comme un écrivain anarchiste de langue française. Nous étions convenus de parler ce matin notamment d'un de mes derniers bouquins qui s'appelle « La terrorisation démocratique », qui est paru il y a un an aux éditions Libertalia, petite maison d'édition animée par des militants anarchistes de la CNT. Excellente maison, très dynamique, et qui en l'espèce a joué son rôle d'éditeur dynamique en me proposant de faire ce livre. Donc c'est une commande. Il s'agissait de faire le point sur l'arsenal dit antiterroriste, qui n'est pas tout récent en France, mais dont l'actualité s'est prolongée et est prolongée depuis l'apparition du bouquin, comme on fait foi la presse de tous les jours de ce matin encore, puisque si on regarde ce qui se passe en ce moment, le projet de loi Besson, le énième projet de loi durcissant les conditions d'entrée et de vie des étrangers en France, est à l'examen à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale venant de terminer en première lecture l'examen du projet de loi, il faudra dire, contre les retraites. On entend aussi, je fais le lien, on pourra peut-être y revenir parce que je pense que c'est un tout, le tout d'une politique de gestion de la société capitaliste qui emploie, des méthodes plus coercitives, juste plus offensives à certaines périodes qu'à d'autres.
Claude Guyon, donc c'est intéressant tout de suite de le préciser, puisque tu emploies ce terme de gestion du système capitaliste, et tu l'évoques évidemment dans ton bouquin, tu le soulignes, en parlant justement de la démocratie. Et tu parles de la démocratie, je crois que pour les auditeurs c'est un petit peu aussi, c'est ce qu'on a dit ce matin avant commencer l'émission à 8h justement, puisque peut-être que d'autres auditeurs, nous aurons d'autres auditeurs que les auditeurs peut-être que nous avons quand nous commençons l'émission vers 10h, en pensant que l'ensemble de la propagande, on l'a déjà dit, hein, de tout l'ensemble des médias est très importante à cette heure-là. Donc sur le thème même, quand on parle de démocratie, et c'est pour ça on va surtout on l'avait évoqué, parler de ton ouvrage La terrorisation démocratique. C'est ce que je essayais de mettre tout de suite en avant, c'est le mot démocratique qui est une sorte de sacralisation de ce mot-là, et on pourrait dire que le terme même de terrorisation démocratique, c'est presque un oxymore, une opposition que des gens entendraient ça, ils comprendraient pas, en disant terreur, appliquer le mot terreur avec le terme démocratie. Et je crois que c'est très important d'essayer, on va tenter évidemment de l'expliquer ce matin, et comme tu disais aussi d'insister pour on parlera peut-être de la République, République, on parlera peut-être de la démocratie, puisqu'on entend ce mot-là infaillible, hein, c'est ça, un mot sacré, c'est démocratique. Donc à partir de moment, beaucoup, pour beaucoup de gens, pas évidemment pour les anarchistes, dès qu'on emploie ce mot démocratique, ça veut dire c'est bien, c'est comme ça, on peut pas faire mieux et tout ça. Donc je pense que c'est intéressant d'expliquer ce titre-là, puisque c'est quand même venu par rapport à ton dernier ouvrage, de mettre en relation démocratie et terrorisation.
L'expression terrorisation démocratique me paraissait assez percutante et pertinente dans la mesure où elle permet de retourner contre le système un certain nombre de lois, tout un appareil répressif qui s'est mis en place. On verra que j'ai pris comme point de repère 86, mais 1986, mais ça a commencé un peu plus tôt. Retourner contre le système, cet épouvantail du terrorisme, qui n'est pas seulement un épouvantail, parce qu'il y a effectivement des groupes terroristes, mais on a vu notamment après le 11 septembre et les attentats contre le World Trade Center que le terrorisme réel ou supposé, était un épouvantail bien utile aux États, et y compris aux États européens. On va y revenir avec une nouvelle définition européenne du terrorisme, qui en réalité vise absolument tout et n'importe quoi, et notamment toute espèce de contestation du système. Et le mandat d'arrêt européen. Il y a une petite nouvelle, pas pour la personne concernée, c'est une grosse nouvelle pour lui, mais ce matin, en me préparant pour venir vous rejoindre, j'entendais qu'un homme d'une cinquantaine d'années a été condamné à 2 ans de prison, dont 8 mois ferme, pour avoir fait deux appels, deux fausses alertes à la bombe, dans une gare parisienne. Ça frappe forcément l'esprit, parce que 2 ans de prison, dont 8 mois ferme, c'est une peine lourde pour ce qui ressemble a priori, à une blague de potache.
Il a dit qu'il était ivre.
Ça m'a fait penser tout de suite à la lourdeur et à la sévérité des peines qui répriment la fausse monnaie. On se dit, un type qui fait des jolis dessins, qui imprime des belles images sur du papier, on voit bien que c'est de la délinquance, mais enfin, ça paraît très tranquille. Or, les peines sont extrêmement lourdes, parce qu'il y a atteinte au monopole de l'État. Et je pense que dans cette petite anecdote judiciaire, il y a la même signification profonde. On a sévèrement sanctionné cet homme parce qu'il a porté atteinte à un monopole de l'État, qui est le monopole de la violence et qui est le monopole de l'usage de la notion de terreur et de terrorisme, ce qu'on voit incarné en ce moment partout dans les gares. Je me promenais à Montmartre l'autre jour, il y avait des chasseurs alpins, place du Tertre. Je me suis dit peut-être que...
C'est la butte, hein.
Alors je me disais peut-être qu'au bord de la Seine, il y a des commandos de marine et en haut de la Tour Eiffel, des parachutistes. Ils adaptent.
Hein. Juste par rapport à cet élément-là, enfin, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les médias ont précisé. Donc c'était 2 appels d'une cabine téléphonique et après une recherche ADN qui avait permis l'arrestation de cette personne qui apparemment était fichée. Et si on parle de ça dans les médias, ça veut dire que tous, on ne peut pas y échapper, je pense, de préciser cette recherche ADN. On reviendra enfin sur la propagande à partir de tous les feuilletons de recherche policière, et donc de dire vous, n'importe où vous irez, vous laisserez une trace d'ADN et au risque de vous retrouver. Je crois que ça c'est important pour mettre le parallèle entre le fait d'avoir téléphoné et de dire avec l'ADN, là on en parlait du succès scientifique qui permet une arrestation manifestation quasiment immédiate d'un individu. Donc, pour l'ensemble des Français, ça pourrait laisser entendre que vous laissez partout des traces d'ADN, et si la police veut vous arrêter, elle pourra le faire. Et donc, ça part de propagande.
Le même jour, enfin, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il y a aussi une jeune fille de 19 ans, je crois que c'est dans le sud de la France, qui a aussi téléphoné pour dire qu'il y avait une bombe dans un lieu public, et qui a été, je ne sais comment, découverte, donc a été arrêtée. Alors c'est tout récent, puisque c'est en même temps que la situation de cet homme qui vient d'être condamné. Et elle a simplement dit, en rigolant, qu'elle voulait faire une blague. Donc, alors si, évidemment, l'ensemble de la population prenait son téléphone pour téléphoner à Hortefeux en disant il y a une bombe sous votre siège, je crois que ce serait une bonne chose.
Mais on est en plein paradoxe parce que, par ailleurs, les gens sont incités à téléphoner pour signaler des colis suspects. Alors c'est une recommandation qu'on peut faire. Il faut signaler des colis suspects
en permanence.
En permanence. Il y a énormément de colis suspects. Enfin, il y a énormément de colis, donc on peut les décréter suspects. Voilà. Donc, il ne faut pas faire d'alerte à la bombe. Il faut signaler des colis suspects dès qu'on voit un colis. Voilà. C'est un principe de. C'est jamais que l'application du principe de précaution. Oui. Hein, voilà. D'une certaine façon. Alors, pour revenir à cet arsenal antiterroriste, j'ai choisi comme point de repère l'année 86, dans la mesure où c'est à ce moment-là qu'on introduit, et c'est dit dans ces termes-là, un élément subjectif dans la définition du terrorisme. Ça paraissait utile aux tenants de l'ordre. Ils disent, c'est une citation là que je vous lis, que pour être qualifié de terroriste ou en lien avec une entreprise terroriste, l'infraction doit être en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement la paix publique par l'intimidation ou la terreur. Bien entendu, c'est l'État qui décide de ce qui trouble gravement l'ordre public, c'est son rôle et c'est son intérêt. Depuis 86, les choses se sont évidemment aggravées, avec un empilement dont on ne peut pas donner le détail, parce que d'une part parce que ça ennuierait beaucoup les auditeurs, et d'autre part parce qu'on est en ce moment en train d'en ajouter, en ce moment même à l'Assemblée nationale, un énième projet de loi est en train d'être examiné, avec un certain nombre de choses qui sont votées et qui permettent, là c'est un projet contre l'immigration, et ça permet de faire allusion à une autre grande caractéristique, outre le côté subjectif et donc complètement élastique, et d'un moyen qui permet à l'État de décider à chaque instant qui est coupable et qui ne l'est pas, et ce de manière préventive. Il y a une autre dimension qu'on repère aussi dès 86 dans les discours de Jacques Chirac, qui est la combinaison de trois figures, j'ai appelé ça des figures dangereuses, on a parlé des classes dangereuses. Il s'agit donc du terroriste, dont la définition va changer après les attentats du 11 septembre, on en reparlera, du jeune et de l'immigré. Oui. Alors évidemment, l'idéal, entre guillemets, du point de vue de l'État, c'est le jeune immigré soupçonné de pouvoir rallier une entreprise terroriste, et il est soupçonné de pouvoir rallier une entreprise terroriste dans la mesure où il est d'origine immigrée. Et alors ça, il réunit les trois catégories idéalement. Par exemple, là, l'examen de la loi Besson à l'Assemblée nationale, on vient de voter, c'est tout récent, hein, le 30 septembre. La déchéance de nationalité pour toute personne étrangère qui aurait porté atteinte à la vie d'un policier ou d'un dépositaire de l'autorité publique. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est dans un projet de loi qui concerne l'immigration, il n'est pas question a priori de terrorisme. Or, ça vient des lois antiterroristes qui prévoyaient déjà que quelqu'un qui a acquis la nationalité par naturalisation ou mariage et qui se trouve mis en cause dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État ou liée à une entreprise terroriste peut, dans un délai X qui a tendance à s'allonger au fur et à mesure des réformes, voir son cas révisé, c'est-à-dire il était français, mais comme il a commis un délit qu'on estime impardonnable, on lui retire sa qualité de français. Et ce modèle, qui donc vient de la législation antiterroriste, sert pour modifier le reste de la législation. Donc on voit que il s'agit pas de termes, de lois, de textes, d'exceptions qui répondraient à des situations dramatiques et donc des textes qui ne seraient pas destinés à être appliqués dans le quotidien de la vie des gens. Et il s'agit bien d'un modèle qui s'impose progressivement à l'ensemble du système qui est un système qui est répressif, mais un système qui encadre la vie d'un certain nombre de citoyens, en l'occurrence les gens qui sont d'origine étrangère. Ça veut dire que ça concerne aussi les gens qui ont épousé quelqu'un qui est d'origine étrangère, qui se trouve en somme en situation de d'être complice de suspects, hein. Puisque s'il y a le conjoint d'origine étrangère qu'on va surveiller particulièrement pour voir si par hasard il ne serait pas, et il suffit de pas grand-chose, hein, il suffit d'avoir des liens supposés avec un groupe, une mouvance religieuse qu'on soupçonne par ailleurs d'eux. Bien entendu, la personne qui a été, qui est le conjoint de ce conjoint, je ne sais pas si vous me suivez, se trouve suspect. On en arrive là à réprimer ce qu'on appelle maintenant, il y a toute une gamme, il y a tout un nuancier antiterroriste de couleurs concernant les mariages. Il y avait déjà une répression des mariages blancs, alors maintenant on réprime les mariages gris. Le mariage gris, c'est quand quelqu'un est supposé avoir trompé une personne de nationalité française pour obtenir d'être épousé, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, pour acquérir la nationalité française, alors que il n'éprouvait ou elle n'éprouvait, la personne, aucun sentiment pour l'autre personne qu'elle épouse. Un député vert a dit: vous êtes en train de créer une police des sentiments. Il y a quelque chose de vrai, au sens où on imagine que les enquêteurs puis les tribunaux auront à trancher sur la qualité de l'inclination manifestée par une personne de nationalité étrangère pour une personne de nationalité française. Alors on imagine que assez bien et assez facilement que des gens qui sont musulmans, par exemple, seront immédiatement suspects de ne pas pouvoir éprouver de sentiments réels et sincères envers une personne chrétienne ou d'origine chrétienne. C'est un peu plus qu'une police des sentiments, c'est une... Moi je pense que là il y a à l'œuvre un ressort fondamental qui tient à cet ensemble de lois que moi j'appelle de terrorisation, mais qui se présente comme antiterroriste. Et ce ressort fondamental, c'est une paranoïa génétique, donc racialiste, même si elle ne se réfère pas à l'idée d'une race pure, hein, mais il y a l'idée que le mariage, le lieu de naissance, les relations sexuelles sont un moyen d'infiltrer la communauté nationale, soit pour obtenir la nationalité pour la personne, pour l'infiltrer, entre guillemets, soit pour y déposer une forme de colis suspect particulier, que sont les enfants. Alors, ça prend des formes encore plus ridicules. C'est le charme des USA, c'est que souvent, les phénomènes qu'on connaît chez nous en petit, ils sont légèrement grossis sous la loupe. D'abord, c'est un grand pays, ne serait-ce que par sa superficie. Et alors, aux USA, ce qui se passe, c'est que des politiciens dénoncent le fait que la législation américaine serait très, les États-Unis seraient très vulnérables du fait de leur législation et du droit du sol, c'est-à-dire que un enfant né aux États-Unis a la nationalité américaine. Et alors, dit ça, c'est très dangereux parce que d'après d'anciens agents du FBI, il y a un plan concerté d'organisation terroriste qui consiste à venir faire accoucher des femmes
aux États-Unis
et des femmes alors sympathisantes de réseaux terroristes ou censées pouvoir le devenir, de manière à créer de faux citoyens américains qui, dans 20 ou 30 ans, disent-ils sans rire, pourront être lâchés sur le système et amenés à oui, exactement. Oui, c'est un côté.
Cette attaque là contre les bébés, enfin avec une armée de bébés futurs terroristes, oui. Ça ressemble aussi à cette idée qu'il fallait mettre une puce dès la naissance aux enfants dont on pouvait soupçonner qu'ils avaient une lourde hérédité déjà de ayant vécu soit à l'étranger, soit ayant été les enfants de personnes concernées plus ou moins directement.
Si on arrive à les détecter. Hein,
voilà. Ouais, alors donc, c'est vrai que tout à l'heure tu disais que c'était une paranoïa. Mais est-ce que cette paranoïa n'est pas le propre même de tout État, c'est-à-dire au fond d'accumuler toutes les contraintes possibles, faire à la fois preuve d'une force et d'une volonté de soumettre, d'assujettir et de terroriser. Est-ce que c'est naturel? Au fond, quand tu parles de paranoïa, on pourrait penser que c'est exceptionnel. Mais ce que je voulais dire, c'est...
Non, bien sûr, mais tu as raison. Tu as raison parfaitement. C'est la caractéristique d'un État. Je parle de paranoïa pour souligner le caractère ridicule de certaines manifestations de cette crainte, mais il ne s'agit pas de mettre ça sur le dos des Américains. On a vu ça dans tous les débats ici en France autour des tests ADN, de la lutte contre les mariages blancs, tous les débats sur les textes réprimant l'immigration dite irrégulière. La question du fichage et des tests ADN s'est posée en suscitant en général quelques réticences de la part d'une fraction de la droite, y compris, parce que là, j'imagine qu'il y a un petit signal d'alerte qui s'allume dans la tête d'un certain nombre de représentants de la bourgeoisie. Alors, si on se met à aller vérifier avec des tests génétiques de qui sont réellement tous les enfants, c'est pas sûr que on s'en sorte avec les honneurs, donc il vaut peut-être mieux laisser tomber ce genre de choses et pas aller trop loin dans cette direction. Mais en même temps, c'est la logique politique des lois anti-immigration, et puis c'est la logique commerciale aussi, parce que les tests ADN représentent un marché absolument colossal, et donc il y a une espèce de logique du système qui va dans ce sens-là et dans la remise en cause du droit du sol, et dans une espèce de principe nouveau qui serait que la nationalité ne serait jamais définitivement acquise et aurait besoin d'être prouvée perpétuellement. C'est ce qui se produit en ce moment en France à propos des renouvellements de cartes d'identité. Quand il y a une personne d'origine étrangère dans la famille, on demande des certificats de nationalité, on emmerde, ce qui est quand même un paradoxe amusant, pas pour les gens qui en sont victimes, mais vu de l'extérieur, on emmerde particulièrement les gens qui sont nés dans nos anciennes colonies. C'est-à-dire que, en somme, on reproche à des gens qui sont nés, par exemple, en Algérie, quand l'Algérie était française. C'est ce que l'État français disait, et il a dépensé beaucoup d'argent et il a fait beaucoup de morts pour que ça essaye de se perpétuer. On leur dit, ah non, mais vous comprenez, vous êtes né en Algérie, c'est pas vraiment la France. Ah, bah oui, enfin, à l'époque, dire que l'Algérie n'était pas la France, ça présentait des risques importants. Et maintenant que l'Algérie est indépendante, on vient chercher des poux dans la tête à ces gens-là. Là, il y a une dimension de paranoïa et une dimension de pathologie mentale, je dirais, d'une façon plus générale, qu'on retrouve dans toute cette législation antiterroriste, où à la fois il y a une rationalité qui est le perfectionnement d'un arsenal législatif qui sert à gérer une société de manière plus policière, plus autoritaire. Il y a aussi une réaction, on peut penser à une relative ouverture des frontières. C'est-à-dire, les frontières sont devenues un peu plus élastiques, c'est-à-dire qu'elles, ce qui ne veut pas dire qu'elles laissent passer plus de monde, ça veut dire qu'elles se sont un peu écartées des frontières naturelles de chaque État. Donc la frontière du point de vue de l'immigration, on pourrait considérer que la frontière française se situe quelque part en Libye, parce que on va avoir des chemins d'immigration qui arrivent en France et qui passent par la Libye. Et donc on voit des stratégies et des politiques anti-immigration au niveau non seulement de l'Union européenne du point de vue de ses frontières, mais l'Union européenne agissant comme une espèce de super-État qui va traiter avec des États des régions sources de l'immigration pour mettre en place des fermetures de frontières, des camps de rétention. L'Union européenne organise et finance des camps de rétention à des centaines de milliers de kilomètres de là.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette accumulation de textes pour domestiquer complètement chaque individu et en même temps lui faire peur dès qu'il ne remplit pas telle et telle condition, et ces mesures qui visent un individu ne sont pas le substitut aux douanes, aux frontières, qui effectivement permettait, en donnant des consignes aux douaniers, de repousser, de rejeter telle ou telle personne.
Oui, je pense qu'il y a un vrai freinage, une vraie réticence de tout un personnel étatique à cette espèce de modernité de frontières qui ne doivent plus être considérées au niveau d'un État, mais de l'Union. D'abord, ça a été retardé, les histoires de la circulation dans l'espace Schengen, ça a été remis de 6 mois en 6 mois. On n'est pas encore tout à fait prêt. Il y a une profonde réticence de tout ce qui est appareil policier à ce genre de choses. Mais en même temps, il y a aussi une adaptation. On apprend comme ça au hasard d'un article de journal que il y a des policiers français qui travaillent en Chine, dans les aéroports chinois, pour essayer de repérer à la source, en somme, des clandestins qui viendraient émigrer en France. Donc là, c'est une période aussi de... Tout ça est assez neuf, donc c'est une période d'adaptation. Alors il y a des progrès de leur point de vue, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des dispositifs qui sont assez performants, et d'autres qui se cassent complètement la gueule, qui s'engorgent, parce que tout ça se fait aussi avec beaucoup de bureaucratie, donc beaucoup de difficultés.
Claude, alors, bon, revenir peut-être, parce que là, donc c'est les effets actuels, donc c'est l'actualité par rapport à ça, et comme tu évoquais tout à l'heure l'année 1986 par rapport au développement de cet arsenal, tu parles quand même dans ton bouquin, tu dates ça en 1982, à partir, parce que bon, pour peut-être aborder ça le point de départ, avec, souvenons-nous, enfin en tout cas rappeler aux auditeurs, 1982, donc une année après l'élection de Mitterrand, tu parles de Joseph Franceschi. Et là, pour Joseph Franceschi, ce qui est intéressant, c'est que tu dis pour revenir à la terrorisation, en tout cas, il était, rappelons-le, secrétaire d'État à la sécurité publique, donc le Parti socialiste, hein, et voilà, les agressions contre les personnes âgées et les femmes seules, vols divers, cambriolages, en bref, toutes les atteintes aux personnes et aux biens font partie, c'est ça qu'apparaît le concept, du terrorisme au quotidien. Terrorisme au quotidien, et donc ça, tu faisais référence à un article publié dans Libération. Alors tu dis, qualifiant, sachons lire entre les lignes, de terrorisme, qualifiant donc le terrorisme, le vol à la tire, les graffitis, le tapage nocturne, c'est associé dans l'esprit public, le poseur de bombes, l'étranger, le jeune. Je pense que là, et tu évoques les classes dangereuses, revenir au point de départ par rapport à ça, voir les distinguos, hein, puisque des gens pourraient faire entre droite et gauche, ça serait différent, et donc revenir à son point de départ, et aussi, tu évoques aussi le fait de terreur, terrorisation, terrorisme, et tu expliques aussi la terreur d'État, et revenir, je crois que c'est intéressant de le préciser, au terme, tu as été voir Robert, le grand ou le petit, pour la période de la terreur, donc la terreur d'État. Et donc je pense qu'il faut, ça serait bien de parler de ça, de ce point de départ, ça c'est très important, parce que on parle de terrorisme comme ça sans vraiment savoir le définir.
Peut-être comme il est un peu plus germanique, ça fait une demi-heure.
On peut faire, ça, puis peut-être après vers moins quart,
est-ce que tu préfères qu'on interrompe pour laisser aux auditeurs
je peux dire deux mots sur l'origine du mot, effectivement, terreur. La terreur est d'abord une politique d'État pendant la Révolution française. C'est une origine d'ailleurs, c'est à la fois l'origine de la terreur et l'origine du gouvernement de la bourgeoisie, origine qu'elle n'aime pas beaucoup qu'on lui rappelle. Alors évidemment les circonstances sont différentes, mais il y a un certain nombre de points communs, et notamment la centralisation qui est caractéristique de la politique terroriste. Alors je parle de 1793-1794, et qu'on retrouve dans toutes les politiques antiterroristes actuelles, y compris pour les choses les plus apparemment bénignes.
Qui relève du fait divers.
Oui, c'est ça, et à peine même. C'est-à-dire qu'on voit des circulaires réclamant que soit signalé à Paris, c'est-à-dire de manière centralisée, le moindre graffiti, je ne sais pas, au stylo prison, par exemple, et qui donc pourrait être rattaché à une fantasmatique mouvance anarcho-autonome, et tout ça arrivant. Voilà, tout ça arrivant sur le même bureau d'un juge antiterroriste parisien pour des broutilles, voilà. Donc ça, c'est une caractéristique commune de la politique terroriste, bien, et non pas antiterroriste, de l'État, c'est la centralisation et d'une certaine façon la paranoïa, on y revient, parce que c'était aussi très fort avec des raisons objectives aussi pendant la Révolution, c'est-à-dire la crainte des suspects. Et quand on les craint, il faut les trouver.
Et il faut peut-être les créer aussi.
Et on en vient nécessairement à les créer, parce que une machine ne tourne pas dans le vide. Elle a besoin de broyer quelque chose. C'est comme une meule. Il faut qu'il y ait du grain. Et si on n'a pas de suspect réel ou assez présentable, ben il faut les inventer. Effectivement,
on verra ça tout à l'heure.
Un bon exemple
qu'on reviendra sur ce thème tout à l'heure. Donc, on vous rappelle, alors Josie, donc ce matin.
Le numéro de téléphone du studio, si vous voulez appeler et participer à cette émission, donc c'est le 01 43 71 89 40. On rappelle qu'on est sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Et là, je vais vous passer une chanson de Xavier Lacouture, interprétée par Fred Musset, qui s'appelle « J'ai mal à la terre ».
appelle la terre. Entrez, vous êtes ici chez vous. Pour ma santé, faut pas s'en faire. Je suis en observation, c'est tout. Et je tourne autour du sommeil. Couché sur l'étoile de mon lit. Un médecin sans frontières surveille ma température jour et nuit. Je souffre de l'Afrique gastrique. À chaque repas entre oesophage, les luttes intestines me ravagent. Le gros colon fait du trafic. Au cœur de l'Amérique, l'anémique. Les rouges haïssent les globules blancs. De chaque côté du Pacifique et moi, je me fais du mauvais sang. C'est grave docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Ça tourne par rond, je crois que je fais de la tension. Une douleur me transperce l'épaule. Plus au sud en Polynébrite, on m'a fait péter un atoll. Je ne sens plus rien docteur, faites vite. Je respire pas bien près des côtes. Ou malaise, ou de l'asthme, de Panama. Je transpire, j'étouffe, je suis phoque. Je crois que c'est le régime qui me convient pas. C'est grave docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Près du poumon, j'ai comme de l'oppression. Je voudrais retomber en enfance, au pays des petits bobos. Des maladies sans conséquences, qui portent des noms d'oiseaux. Écoutez chanter les rougeoles, regardez passer les oreillons. Voir les varicelles qui s'envolent et reviennent selon la saison. C'est grave docteur, j'ai mal à la terre.
Je suis devenu un continent, sur une mon troisième océan. J'y peux rien si je vous inonde. J'ai quitté les îles de la sonde.
Plutôt que les tropiques du cancer, je trouve plus jolie la pleurésie. Dans le crachin du bord de la mer, j'attendrai sagement l'embellie. C'est grave docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Ça tourne par rond, ça tourne par rond, ça tourne par rond. C'est grave docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Près du poumon, un peu d'affection.
Thank you.
cher Radio Libertaire, avec Claude Guillon qui va nous parler de la terreur de l'État. C'est un État et qui va nous parler de sa, notamment de Sarkozy et de cette espèce de goût qu'il semble avoir pour tout ce qui touche à la guerre.
Alors rappelez juste, Jacques, quand même l'importance de ton bouquin, hein, La terrorisation démocratique, qui a été publié il y a à peu près un an. Donc je pense que c'est important de le souligner, puisque depuis un an, ça s'est comme...
Ça s'est accéléré.
Je pensais qu'il voulait
le sortir, ce bouquin.
Oui, il faudrait rajouter des cahiers détachables à l'annexe qui concerne, il y a une annexe dans le bouquin qui concerne les textes répressifs, et il faudra en ajouter tous les trois mois. C'est un petit peu compliqué. On envisagera des formes d'actualisation.
Un dictionnaire du terrorisme d'État.
Faudra probablement trouver une manière de mettre en ligne des actualisations, mais le fond qui est un historique et une tentative d'analyse reste malheureusement juste et n'est que confirmé par ce qui se passe en ce moment. Tu faisais allusion à Sarkozy et au thème de la guerre. C'est intéressant parce que ça ne date évidemment pas du moment où il a été élu président de la République. Le Monde faisait remarquer récemment dans un article que depuis 8 ans, ce thème de la guerre, en donnant, le journaliste donnait un certain nombre d'exemples de déclarations, le thème de la guerre est récurrent chez lui. Alors, quelquefois, je pense qu'on peut accorder du crédit aux paroles des politiciens. Il arrive qu'ils mentent, bien entendu, Sarkozy y compris. Mais il arrive aussi que, surtout dans la répétition, ils disent quelque chose de leur manière d'envisager les choses qui n'est pas nécessairement inexact. Sauf que je pense que sur le fond, la guerre dont parle Sarkozy, c'est ça peut concerner, lui il parle de guerre à la délinquance, guerre à la drogue, guerre à l'immigration clandestine. Moi je pense qu'on voit là revenir au plus haut sommet de l'État, c'est donc intéressant, un thème très ancien qui est celui de la guerre sociale, et alors qu'il ne peut plus s'avouer comme ça aussi crûment comme une guerre aux pauvres, comme une guerre aux prolétaires. Donc il utilise un certain nombre de biais du discours. On fait la guerre à la délinquance, on fait la guerre aux immigrés. Enfin, mais c'est finalement la guerre de toujours que mène une classe pour asseoir sa domination. Et elle
et la croître aussi.
Et la croître de préférence. Revenir suivant les périodes historiques sur un certain nombre d'acquis ou de choses qui étaient considérées sans doute à tort comme des acquis. Et donc c'est tous azimuts. On se moque souvent de Sarkozy et de son activité sautillante et polyvalente, mais en même temps il y a une cohérence de fond là-dedans qui est justement de donner des moyens à l'État, mais pas à l'État en tant qu'institution abstraite, en tant qu'institution qui est destinée à maintenir un certain ordre social, économique et politique, de maintenir cet ordre. Et donc c'est bien d'une guerre qu'il s'agit. Il y a un petit retard dans les forces de l'ordre. Ça aussi c'est très intéressant. On voit que les flics sont absolument terrorisés, on pourrait dire,
aussi,
et ébahis.
Ah, il y en a qui ont défilé pour la retraite.
Oui, bien sûr. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir les réactions qu'il y a eu lors de tel ou tel de ces incidents violents dans des quartiers qu'on appelle des quartiers sensibles. Les flics avaient l'air absolument ahuris de se trouver en position d'être eux visés par des tirs de fusil, de se trouver eux dans la situation d'être la cible de tirs. Et d'être menacé. Et donc il y a des flics qui ont été mis en congé maladie, leurs domiciles ont été surveillés par des gendarmes ou des CRS. Du côté des CRS, il y a une compagnie républicaine de sécurité, puisque tel est le déroulé du terme, ils n'ont pas le droit de se mettre en grève, ces gens-là. Hein. Alors,
ni de manifester.
Non. Ouais, mais alors, à Carcassonne, il y a la moitié d'une CRS, donc d'une compagnie, qui s'est mis en arrêt maladie. Parce que un des leurs qui avait été blessé a été contrôlé, il était en arrêt maladie, il a été contrôlé chez lui, ce qui a révulsé ses partisans de l'ordre, qu'on puisse les surveiller eux-mêmes alors que c'est leur boulot de surveiller et de réprimer. Donc on a l'impression un peu qu'ils découvrent le monde, ces gens-là, et qu'ils découvrent la réalité de la politique qui est prônée au plus haut sommet de l'État. Effectivement, si c'est la guerre, alors naturellement les flics se font tirer dessus, parce qu'on ne voit pas pourquoi ce serait toujours eux qui tireraient et qui tueraient. Je rappelle qu'entre 1977 et 2001, ce sont des chiffres qui sont donnés par Maurice Rachfus dans un petit bouquin à l'esprit frappeur, qui s'appelle « La police et la peine de mort ». Il y a 196 personnes qui ont été tuées par des flics, en général des jeunes, en général de familles immigrées. 196 morts. Dans le même temps, on nous dit, vous rendez compte, il y a eu des menaces contre des policiers. Et ben oui. Donc le conseil qu'on peut donner à ces gens-là, s'ils s'aperçoivent qu'effectivement ils sont la piétaille de la guerre sociale et que du coup ils risquent aussi de se prendre des balles dans la tête, c'est de multiplier les arrêts maladie et de préférence de changer de boulot.
Il y a le suicide aussi.
Oui. Alors, tu sais que moi, l'incitation au suicide, je suis contre. Parce que,
mais
pour des tas de raisons sur lesquelles on va parler, on ne peut pas parler de tous les sujets aujourd'hui. Mais je suis contre la provocation au suicide. Encore qu'on ait essayé, avec mon complice Yves Le Bonnec, de provoquer des députés au suicide en leur envoyant un exemplaire de suicide mode d'emploi au moment du vote d'une loi réprimant la provocation au suicide, ça n'avait pas marché malheureusement.
Oui, c'est curieux. Parce qu'ils sont très désintéressés.
Il ne faut pas désespérer, Claude. Hein, donc,
parce qu'il faudrait récidiver. Oui.
Et là, tu dis aussi, mais il y avait eu à remarquer aussi, tu dis, alors la grève du zèle, parce qu'avec les compagnies républicaines, donc le nom aussi de sécurité, qui avaient refusé de sortir de leur camion il y a un an ou deux, par rapport à la renvoie, par rapport au malaise, et aussi tu dis la formation, mais peut-être se rendre compte aussi que, là on pourra en parler, le bourrage de crâne, enfin par rapport à rien que l'intitulé compagnie républicaine de sécurité. Donc s'ils protègent la République et s'ils protègent la démocratie, on leur fait... Il y a eu la tentative aussi, tu sais, de Villepin, avec l'histoire des cadets de la République. Donc on prend les gens assez jeunes et puis de les former pour leur expliquer qu'ils sont au service quand même pas simplement de l'ordre, du bien.
Ils étaient au service, comme tu le dis, en tant que gardien de la paix. Hein, on n'utilise plus le mot gardien de la paix. Or c'est ça le métier pour lequel ils ont été engagés, et voilà qu'on les transforme en hommes de guerre, en guerriers. Alors évidemment, il faut qu'ils sachent.
Et ils s'aperçoivent que les risques deviennent un petit peu partagés. Il y a encore beaucoup moins de morts du côté des flics que du côté des jeunes de banlieue. Mais ils s'aperçoivent qu'il peut arriver qu'on leur tire dessus. Et je crois qu'ils sont en train de comprendre que c'est dans la logique du rôle qu'on leur fait jouer. De la même manière que un certain nombre de policiers comprennent très bien que la répression qu'on leur demande d'exercer contre l'immigration a essentiellement un rôle politique et idéologique de propagande et n'a pas de rationalité interne d'un strict point de vue policier, c'est-à-dire qu'ils arrêtent les gens reviennent, donc ils les réarrêtent peux comprendre qu'ils en ont marre d'obéir à des ordres apparemment idiots, exactement comme l'employé de banque en a marre d'être soumis à des injonctions contradictoires.
Ils ont tout de même une protection, c'est-à-dire que s'ils tuent quelqu'un, ils sont nécessairement, j'allais dire, graciés.
Ils sont couverts.
Ils sont couverts. C'est qu'un gendarme, là, c'est tout récent, un gendarme vient, qui avait tué un jeune, vient d'être absous par le juge.
Et le parquet a demandé, a requis un non-lieu dans l'affaire des deux jeunes qui étaient morts dans un transformateur électrique, ce qui avait suscité les émeutes de 2005. Bien sûr, ils sont, de ce point de vue-là, ça peut rassurer les policiers qui nous écouteraient, ils sont mieux couverts que les traders à la Kerviel. Les fusibles sautent plus facilement.
Oui, juste, et puis une petite rectification, parce que, bon, comme ça, puisqu'on avait dit, évoquer les manifestations, quand même, dernièrement, où il y avait eu des policiers pour les retraites, et là, je pense, il ne faut pas se tromper, parce que eux, ils ne veulent plus matraquer après 60 ans. Donc, si on prolonge la possibilité de prendre leur retraite beaucoup plus tard, c'est vrai qu'ils ne voudront plus, ou ils ne seront plus en état... Hein, par rapport aux capacités physiques, ils ne possèderont plus de capacités physiques assez fortes pour aller réprimer les manifestations. Voilà, juste ça quand même pour dire cet aspect-là. Alors, Claude, revenir. Alors, une auditrice, je ne sais pas si on peut, par rapport, il est 9h, on approche de 9h, par rapport à ton bouquet. Alors, si moi, j'évoquais le quatrième, on va rappeler, de couverture de la terrorisation démocratique, dire que c'est publié chez Libertaria, et tu évoquais donc l'affaire dite de Tarnac. Alors, on pourrait peut-être en parler, puisque aussi c'est un peu d'actualité, de dire comment cette affaire-là a été montée. Souvenons-nous de l'emballement médiatique au moment de l'affaire de Tarnac, où tous les journaux, enfin on en parlera peut-être après dans la deuxième partie de Chronique Hebdo, donc ont suivi la police, le montage peut-être, évidemment on le sait de plus, policier, et de savoir qu'actuellement on demande l'annulation, en tout cas les avocats, de la procédure, pour des tas de raisons, puisque je crois que Julien Coupa a été mis, avait été mis sur écoute, on filmait son domicile, enfin des tas de choses comme ça que qui ont été faites, contre eux, sans le savoir, donc se demander cette annulation, et aussi tout ce que peut révéler cette affaire, justement, cette affaire de Tarnac, et avec les nouveaux, comme tu dis, dispositifs, donc qui sont aussi, on va revenir là-dessus, européens, par rapport à cette action, justement, qui on voulait les faire passer, souvenons-nous, pour des terroristes, s'attaquant à la SNCF. Et à ce sujet, donc, on aura peut-être tout à l'heure une illustration musicale qui fera peut-être un pied de nez au ridicule de cette affaire et de tous ces personnages qui ont participé au montage de l'affaire de Tarnac.
L'affaire de Tarnac était intéressante. D'une part, il y avait des gens qui étaient compromis dedans et soumis à des mesures répressives, incarcération, contrôle judiciaire, etc. Elle présentait un intérêt du point de vue de l'analyse de la terrorisation parce qu'elle a été l'occasion de justification d'un certain nombre de responsables policiers qui ont vu une bonne illustration de la doctrine française en la matière. Ce qu'ils appellent la neutralisation judiciaire préventive. Parce que ça venait en réponse, ils ont dit, mais vous voyez bien qu'il n'y a rien, ils disent, ah bah oui, mais justement, c'est quand il n'y a rien qu'on intervient, parce qu'on va pas attendre qu'ils aient saboté toutes les lignes de TGV françaises, donc on intervient en amont, et donc de manière préventive. C'est effectivement l'esprit
des lois antiterroristes qui permettent de mettre sous contrôle soit des milieux politiques, soit des groupes religieux, soit des groupes sociaux, et finalement toute espèce de contestation. Ça nous vient, ça a été, disons, même si c'était en germe dans les textes qui ont été votés en 86, puis en 96, avec le délit qui est maintenant un crime d'association en relation avec le terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, voilà l'intitulé exact, voilà. Et, ça a été finalisé, on peut dire, en langage moderne, après le 11 septembre 2001, avec une au niveau européen, sur incitation forte certainement des États-Unis, mais enfin l'Union européenne s'est précipitée sur cette occasion de concrétiser des projets qui étaient sans doute dans les cartons depuis un bon moment. Et la définition qui maintenant s'impose aux États européens et qui dont les États européens sont contraints de l'intégrer à leur propre législation, la définition d'une entreprise terroriste est une définition de toute espèce d'action politique. Je vous lis une ou deux phrases. Contraindre, c'est la définition de ce qui peut être considéré comme une entreprise terroriste. Contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
Autrement dit, la grève.
Et voilà. Quand on est en train de d'organiser une grève reconductible dans les transports en France pour essayer de contraindre ce gouvernement à renoncer à son projet contre les retraites, il s'agit bien de contraindre. Alors indûment, c'est eux qui décident, donc de toute façon on peut faire sauter l'adverbe. Il s'agit bien de contraindre des pouvoirs publics à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, en l'occurrence une réforme sur les retraites. Donc on voit que la définition est tellement...
Et c'est dans une décision de la Commission européenne ?
C'est la décision cadre de l'Union adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 13 juin 2002. Ils ajoutent, parce que ils ont vraiment ratissé très large de manière à ne rien oublier, ils ont ajouté « gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales, politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays » ou d'une organisation internationale. C'est-à-dire que nous, en tant que militants anarchistes, nous sommes estampillés terroristes une fois pour toutes, même si on est partisans de l'action directement violente, peu importe. Le projet même est qualifié de
terroriste. On peut retourner aussi et parler du capitalisme qui rentre dans sa définition, hein, par rapport à la désorganisation, par rapport à la les termes qui sont employés, on pourrait les dire, c'est une idéologie de la même manière, la retourner, puisque tu peux emploier la terrorisme.
Oui, mais c'est toi qui tiens le bâton.
Voilà. Non, mais donc, le retourner, donc, le sens du texte à leurs propres actions. Bien sûr. Voilà.
Et je pense que, pour finir sur Tarmac, je pense que c'est venu à point pour c'est une espèce de brouillon Tarmac, l'affaire a été bâclée, je ne sais pas si les avocats obtiendront, on le saura, c'est vers le 22 octobre, on saura s'ils obtiennent l'annulation de la procédure, mais c'était probablement une des premières applications de ce type de législation de l'après 11 septembre à des milieux autres que les milieux considérés comme islamistes radicaux. Parce que par ailleurs, ces textes ont été appliqués à de très nombreuses personnes, continuent à l'être chaque année. Ça concerne des centaines de personnes, d'associations, de commerces. Personne n'en parle, parce que ce sont des gens en partie que nous ne connaissons pas, que nous ne fréquentons pas, et parce qu'ils n'ont pas... la même origine sociale, les mêmes appuis médiatiques et intellectuels que pouvaient avoir, et heureusement pour eux, les mises en examen dans l'affaire de Tarmac. Mais c'est une machine, si tu veux,
qui se décrète antiterroriste et qui sert surtout à décréter les autres terroristes, qui est déjà bien rodé quand il s'agit d'un certain nombre de milieux, notamment tout ce qui concerne la mouvance supposée islamiste. Tarnac était une première tentative d'appliquer ça à des militants, pour dire les choses très claires, d'origine bourgeoise, diplômés et de race caucasienne, comme on dit, comme on dit avec pudeur dans les textes américains modernes, ce qui veut dire blanc,
et qui avait décidé de vivre autrement dans une société effectivement capitaliste, en essayant de ne pas respecter toute la vulgate de la consommation, de la croissance, de la productivité, etc.
Comme suspect. Ce qui les désigne aussitôt comme suspect dans la logique de ces nouvelles législations.
Juste avant l'affaire Tarnac, il y avait eu quand même, par rapport à ça, si on revient à Pouget et à parler du sabotage, il y avait déjà eu des actions menées à la SNCF dans les quelques mois précédant l'affaire de Tarnac. Alors on ne sait pas, par rapport aux actions de sabotage et des mouvements, il y avait eu des mouvements, des grèves importantes à la SNCF, s'il n'y a pas eu justement un lien avec cette affaire de montée, justement, pour faire peur, ou pour dissuader, enfin, on pourrait peut-être le rappeler, quand même, avec des actions de sabotage, là encore, si on en revenait, là aussi, peut-être, on parle un petit peu des actions d'Émile Pouget, où on voit très bien qu'au niveau des entreprises, il y a eu des radicalisations à un moment donné dans les entreprises. Comment parler de sabotage, ou s'attaquer au matériel, aux machines, et comment, pour prendre les devants, on n'essayait pas de monter, puisque ça rentrerait totalement dedans, dans une action terroriste, hein, puisque là, le glissement peut être extrêmement rapide.
La caractéristique, c'est un peu difficile à se représenter, parce qu'on n'a pas beaucoup d'exemples qu'on connaisse. Tarnac en est un, mais heureusement, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui nous soient connus. Mais je viens de rappeler que ça concernait chaque année d'autres catégories de population de manière très intensive. La caractéristique de ces textes, c'est que elle met exactement sur le même plan des choses qui manifestement n'ont rien à voir les unes avec les autres, si ce n'est l'intention supposée des auteurs. C'est-à-dire que des ouvriers qui menacent de foutre le feu à un dépôt de produits chimiques ou de faire sauter des bonbonnes de gaz,
comme ça s'est passé ces
dernières années, effectivement, ils rentrent de plein droit dans la définition moderne du terrorisme. Mais le hacker qui, de chez lui, sans la moindre violence contre les personnes, craquer le code du Pentagone ou d'une entreprise, ou attaquer un site,
Wall Street,
un petit sabotage informatique totalement non violent, il est dans la liste. C'est du terrorisme. Puisque ce qui compte maintenant, c'est l'intention de nuire à l'État et de s'opposer au pouvoir. J'ai cité la phrase tout à l'heure, je la recite pas. Elle est limpide. Alors eux-mêmes, ils ont un peu de mal à s'y faire, et ça a du mal un petit peu à passer dans l'opinion publique quand même, parce que c'est un peu gros. Je me souviens que dans les procès-verbaux des interrogatoires des gens de Tarnac, ou des gens autour de Tarnac, parce qu'on a arrêté un peu comme ça, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, c'était assez large, je disais, mais enfin, quoi, je n'ai jamais ni posé de bombe, ni eu l'intention de le faire. Alors oui, disaient les gendarmes, mais vous savez, maintenant, c'est un peu différent, c'est plus tout à fait ça qu'on appelle du terrorisme. Et donc, ça peut concerner n'importe qui. Alors, y compris de manière assez inattendue,
je dirais même à l'intérieur de ma propre critique, on vient de parler des dispositifs européens. Il y a un dispositif très important qui s'appelle le mandat d'arrêt européen, qui a été adopté à la suite quand même d'une révision constitutionnelle. Il a fallu qu'on fasse un petit effort, c'était pas tout simple, pour faire rentrer ça dans la législation française. Adopté lui aussi, comme cette nouvelle définition du terrorisme, c'est un tout cohérent, après les attentats du 11 septembre. Le principe du mandat d'arrêt européen, c'est que tous les États de l'Union européenne reconnaissent mutuellement leur légitimité démocratique et donc leur législation pénale. Et que donc, si, pour prendre un exemple, un juge italien émet un mandat d'arrêt contre, par exemple, un militant français qui serait passé à, mettons, à Gênes pour une manifestation européenne ou internationale et qui serait soupçonné d'avoir jeté un caillou ou une canette de bière sur les forces de police. Le juge italien émet son mandat d'arrêt européen depuis l'Italie. La France ne peut pas s'opposer à l'extradition, elle est automatique, de droit, si l'on ose employer cette expression. C'est-à-dire que le militant peut être arrêté à Paris ou à Lille par des policiers français, sur mandat de ce juge italien, transféré en Italie, et il n'y a pas de recours en France. Alors, j'ai pris un exemple simple. Ça peut être beaucoup plus compliqué. On peut être, se dire, oh, ben, en Italie, on comprend à peu près comme ce qu'ils disent. Non, tu peux aussi te retrouver arrêté et transféré dans un pays de l'Est, sans même savoir ce qu'on te reproche, et tu n'as pas de moyen de t'y opposer dans l'immédiat. Il n'y a pas tous les recours. Ici, quand un militant est arrêté, bon, on sait qu'il est en garde à vue. Alors, pour un certain nombre d'heures, mais on appelle un avocat, on sait assez rapidement ce qu'on lui reproche, comment on va pouvoir essayer de le sortir. Enfin, le mandat d'arrêt européen, qui a été salué par Monsieur Badinter, ancien garde des Sceaux socialiste, efface tout ça et fait qu'il y a une espèce d'espace judiciaire européen à l'intérieur duquel les garanties offertes aux mises en examen
n'existent pas.
N'existent plus. Ce qui est tout à fait extraordinaire, parce que ça veut dire aussi que on peut être mis en examen dans tel pays de l'Union européenne pour un délit qui n'existe pas en France. Tu as fait allusion tout à l'heure à l'incitation au suicide. C'est quelque chose qui me concerne tout à fait directement. Il y a des pays européens où, d'une part, il y a une législation contre la provocation au suicide et où on trouve encore une traduction de suicide mode d'emploi. Je peux demain être inculpé par un magistrat italien, par exemple, ou espagnol, et arrêté ici, alors que sans savoir qu'une instruction a été entamée contre moi à l'autre bout de l'Europe. Voilà. Alors ça c'est quand même un dispositif absolument ahurissant. Dans un premier temps, et dans la logique de mon analyse de la terrorisation démocratique, j'avais pensé que ça viserait d'abord des militants politiques, c'est à eux qu'on a pensé évidemment, et notamment les militants autonomistes, c'est-à-dire les gens de l'ETA, qui étaient déjà les premières cibles des extraditions politiques, et dont ce nouveau mandat d'arrêt européen facilite évidemment l'extradition. Et puis il s'est passé quelque chose à quoi je n'avais pas pensé, je dois dire, et qui montre très bien le danger de ce type de législation entre guillemets d'exception qui deviennent la norme. C'est que ça on le sait, un système qui existe, il se met à fonctionner.
une ça n'existe pas. Les lois qui dont on dit on les adopte. Ah non, mais bon, on sait par principe, vous voyez, mais on va pas s'en servir, hein. Ça n'existe pas. Un jour ou l'autre, les lois servent. Moi, je pensais que ça allait viser d'abord des militants politiques et puis peut-être de manière un peu plus large des militants syndicaux ou des activistes politiques dans le cas de manifestations comme il y en a eu une à Bruxelles récemment où on a arrêté préventivement sur place des centaines de personnes. Et puis les choses se sont passées un petit peu différemment et on s'est aperçu que le mandat d'arrêt européen concerne littéralement tout le monde. Parce que un certain nombre de pays, alors là, chaque pays a son histoire, un peu lourde, un peu difficile, prenons le cas de la Pologne, longue histoire bureaucratique, et puis voilà qu'on donne à ces magistrats nouvellement démocrates, hein, pour eux c'est récent, on dit voilà, vous pouvez arrêter, faire arrêter qui vous voulez n'importe où en Europe. C'est génial, c'est génial, voilà la nouvelle circulaire, nous l'appliquons de rechef. D'où protestation de la police anglaise, qui dit mais c'est complètement délirant là, le système est engorgé, bloqué, et on en arrive. Alors je vais vous trouver le chiffre exact. D'abord, depuis 2002, il y a quand même eu 14 000 mandats d'arrêt européens. On voit qu'on n'est pas dans le... On n'est plus tout à fait chiffre. Dans la marge
du chiffre.
Les quelques militants bizarroïdes. Les Anglais se plaignent en 2008 d'avoir à expédier en Pologne un avion militaire polonais toutes les trois semaines. Donc ça suppose un...
Avec des mis en examen.
Avec des gens arrêtés sur mandat d'un magistrat polonais.
Pour
des choses totalement...
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, mais bien sûr, pas du tout pour des militants politiques par hasard, mais là, voilà, là ce sont des choses totalement ridicules.
Un touriste anglais en Pologne qui crache sur une croix chrétienne.
Mais absolument.
Jacques, blasphème absolu.
Mais absolument, absolument. Alors, il y a une organisation non gouvernementale anglaise qui donnait un certain nombre d'exemples. Par exemple, un Lituanien qui a été extradé pour vol de porcelet. Un menuisier qui avait récupéré la porte d'une penderie parce que son client l'avait pas payé. Donc il a dit, il paye pas, je vais récupérer la porte. Le gars a dit, on m'a volé ma porte, je l'avais commandé, il est venu la rechercher chez moi. Mandat européen. Et le vol d'un dessert, c'est une grivellerie probablement, c'est quelqu'un qui a été manger un dessert dans une pâtisserie sans payer.
Polonais.
Et dont le mandat d'arrêt énumérait scrupuleusement les ingrédients du dessert pour bien montrer. Alors là, tu vois, ça c'est intéressant parce que c'est délirant. Évidemment, c'est délirant. Et ça révèle le caractère intrinsèquement délirant de ce type de législation dont des magistrats et des flics qui sont des gens simples ne pensent pas une seconde qu'il n'est pas fait pour être appliqué. Ça existe. On leur dit, très bien. Donc, à la moindre plainte, mandat d'arrêt européen. Et ils se retrouvent avec un système complètement emballé et fou. Et des protestations. Alors, j'ai parlé de la police anglaise qui en a marre de remplir des avions militaires polonais de voleurs de poules. L'Union européenne s'est avisée que là, quand même, non, il y avait un petit souci. Et pourquoi il y a un souci? Ils se sont aperçus que c'était un obstacle au tourisme.
Ah bah oui.
Et voilà, donc c'est un peu ce que tu disais. Parce qu'ils disent, il s'agit quand même, dit l'Union européenne, de renforcer la confiance dans l'espace européen de justice, particulièrement du fait que les Européens sont plus nombreux à voyager. 47% des Allemands, 34% des Britanniques, 16% des Italiens prennent leurs vacances dans un autre pays de l'Union. Or, des gens se sont trouvés dans des situations totalement kafkaïennes. J'ai cité des choses.
Tu devrais dire ubuesque, parce que la Pologne, c'est le père Ubu.
Voilà. Nulle part. Nulle part. Quoi de pire d'être extradé vers nulle part, tu vois? Là, j'ai cité des exemples un peu comiques. Il y a des affaires beaucoup plus dramatiques de gens inculpés de meurtre dans des histoires très complexes pour lesquelles ils n'ont rien à voir, qui se retrouvent extradés dans un pays étranger dont ils ne comprennent pas la langue. L'Union européenne s'est avisée là tout récemment qu'il serait peut-être intéressant pour appliquer le mandat d'arrêt européen de fournir aux personnes arrêtées un formulaire dans leur langue à eux leur donnant leurs droits. C'est pas mal, hein. C'est une bonne idée. Ça n'existait pas. Ouais. Ça n'existait pas. Ils ont mis en place une législation comme ça, aussi répressive que le mandat européen, sans même probablement concevoir ce que ça allait signifier pour les gens. Et puis, quand le portefeuille est atteint, puisque le tourisme c'est ça, ils disent ah merde, mais non, mais c'est embêtant.
Tu parles du tourisme, et bien là on peut voir par rapport aux recommandations qui viennent des États-Unis, c'est-à-dire par rapport à des déclarations, je crois qu'il y a un ministre allemand dernièrement, ou un ministre du tourisme qui a dit bon, les risques de danger, d'attentats en Europe ne sont pas si évidents que ça. Et deuxièmement,
c'est le ministre des Affaires étrangères allemand. C'était d'autant plus étonnant qu'on venait d'entendre Hortefeux et puis toute une bande de zozos, d'auvergnats de son espèce, nous répéter que le danger est considérable, il faut être vigilant. Tout de suite après, la télévision montre le ministre des Affaires étrangères allemand en disant mais en Allemagne, c'est de la plaisanterie, il n'y a pas du tout de risque particulier en ce moment.
Et alors Claude, aussi, parce que tu parles du mandat d'arrêt européen, là aussi, parler de aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on peut arrêter qui que ce soit, sans rien. Justement, par rapport, on présume qu'un individu peut être suspecté d'actes terrorisme, et il n'y a aucune disposition qui fait qu'on va l'arrêter, on l'arrête, sans aucune justification. Ça, c'est un cran au-dessus.
Présomption de culpabilité.
Il n'y a rien aux États-Unis, par exemple. Le terroriste acte qui a été publié là-bas, après le 11 septembre, fait qu'on peut arrêter qui que ce soit sans aucune justification.
Si j'ai insisté sur l'exemple du mandat d'arrêt européen, c'est parce que ça montre que un dispositif qui était manifestement un dispositif de terrorisation politique, à visée politique, se retrouve à avoir des conséquences, finalement, contamine la totalité du système policier et judiciaire, et se met à avoir des conséquences pour tout le monde et n'importe qui. C'est-à-dire plus du tout seulement pour les militants, quelqu'un qui est victime d'une erreur ou qui commet une infraction, ça peut être un dépassement de ligne jaune, n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Donc à la fois c'est absurde, donc c'est intéressant de dénoncer cette absurdité, mais c'est surtout comme signe du fait que ces dispositifs supposés justifiés par les horreurs des attentats comme ceux du 11 septembre finissent par soit servir de modèle à des réformes, on le voit avec la loi Besson actuellement, soit à contaminer l'ensemble du dispositif législatif et avoir des conséquences bien concrètes et bien réelles pour des centaines de milliers de personnes très éloignées, y compris de toute espèce d'action ou d'activité politique.
Voilà, Josie, alors peut-être il y avait une petite illustration musicale, on a essayé tout du moins par rapport à l'affaire de Tarnac, et rappeler donc aux auditeurs, c'est Radio Libertaire, l'émission Chronique Hebdo avec Claude Guillon, numéro du studio 01 43 71 89 40.
Sur ce feu qui déclare la guerre au quartier. Allô les studios, je suis dans le bureau où est interrogé le terroriste de l'UHT. Ultime hyper total gauche, à gauche de la gauche de la gauche de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche, bien pire que la gauche de la gauche de toutes les gauches. Ça fait des mois qu'on te suit, toi et ton groupuscule. On sait tout sur ta vie et celle de ta cellule.
tu t'intéresses au train, tu flâneras des chemins de fer. Si j'en crois les témoins, t'as même pris les horaires. Dans ta bibliothèque, paraît qu'il y a des bouquins. Et d'après notre enquête, t'en as même lu certains.
UHT,
ultime hyper total gauche. À gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche. Bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches. Fini les projections et les choucroutes parties. L'État dans son action sera direct aussi. Des détournements de brouette, là tu risques 20 ans. À moins que ça soit perpète, si t'avoues pas maintenant. Le procureur constate qu'il y a dans ton garage des tuteurs à tomates. C'est pour les sabotages.
UHT,
ultime hyper total gauche. À gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche. Ultime hyper total gauche. Bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches. Le jugement est tombé, fini le jardinage. Pour toi ça va chauffer, sous les navets, la plage. Une bombe atomique, demain sera lâchée. Contre le membre unique de ta communauté. T'étais le premier leader d'un mouvement anarchiste. Le seul spéculateur anticapitaliste.
Total gauche,
à gauche de la gauche de la gauche, de l'extrême gauche.
Ultime hyper total gauche,
bien pire que la gauche de la gauche, de toutes les gauches. Et si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air, c'est que le vent a soufflé. Oui, si les caténaires continuent à tomber, c'est qu'il y a des courants d'air et que le vent a soufflé. En veut à la cire ce feu.
Vous êtes de nouveau sur Radio Libertaire à l'émission L'invité de Chronique Hebdo et vous avez entendu donc la Parisienne libérée et suivie de Mozart.
Oui, eh bien effectivement, c'est une auditrice qui me disait qu'elle avait été filmée en train de dire dans une manifestation qu'elle était anarchiste. Et alors, elle me demandait ce qu'elle risquait maintenant compte tenu de cette espèce de généralisation de toutes les activités, surtout de manifestants ou de prise de position philosophique. Et je lui ai dit que de toute façon, la révolte ou la façon de s'exprimer contre un pouvoir injuste, c'était toujours prendre un risque.
Oui, alors, Claude aussi, on avait évoqué, je pense que cette auditrice avait tout à l'heure posé la question par rapport à la continuation de la révolution de 1789. Et alors, peut-être, on va évoquer, enfin, par rapport à tes nombreuses publications, en tout cas, cet ouvrage qui a été publié à la Digitale, alors c'était en 93, entre autres, il y en a deux enragés de la révolution, Leclerc de Lyon et Pauline Léon, hein, celui-là, et donc peut-être évoquer un autre ouvrage, enfin juste peut-être on en parlera en continuité, si tu veux, publier en 2004, Le droit à la mort, suicide, mode d'emploi, ses lecteurs et ses juges, publié en 2004, hein, voilà.
Alors, ce sont des thèmes sur lesquels je travaille depuis longtemps. Tu as cité le bouquin toujours disponible à la Digitale. C'est la biographie de deux militants de ce courant de la Révolution française qu'on a appelé les enragés. Le courant radical qui espérait aller plus loin, dépasser les montagnards et les jacobins sur leur gauche. Pour dire ça vite.
Et eux, ils s'appelaient comme ça, les enragés ?
Non, eux-mêmes ne s'appelaient pas comme ça. C'est un terme qui est employé déjà à l'époque pour désigner les extrémistes, si tu veux. Eux-mêmes ne l'ont pas utilisé pour s'auto-qualifier. Il s'agissait d'un courant davantage que d'un groupe organisé. On sait que dans certains événements, lors de certaines journées révolutionnaires, ils ont agi de concert. On ne sait pas, donc on suppose qu'ils ne se sont jamais retrouvés autour d'une table pour comploter ensemble, si tu veux. Donc c'est pas le modèle du groupe de conspirateurs. Hein. J'ai republié, beaucoup plus récemment, un recueil de textes de ces militants et militantes enragés, parce que il y avait des femmes qui avaient créé un club politique féminin, la Société des citoyennes républicaines révolutionnaires. Et donc j'ai republié tout récemment un recueil de ces textes qui s'appelle « Notre patience est à bout ».
C'est ça. À bout en deux mots, hein.
Oui, absolument.
Parce qu'à l'écoute...
Oui. Absolument, voilà. Oui. Voilà. À bout en deux mots. C'est-à-dire, il y en a marre, comme traduction. C'est donc une espèce d'introduction à des lectures sur la Révolution française et sur ce courant des enragés sur lequel je travaille depuis un bon moment. Ce recueil « Notre patience est à bout » est publié par une maison d'édition qui s'appelle IMHO, et IMHO, ça signifie « In my humble opinion ». Et le même éditeur, IMO, IMHO, a republié cette année le livre auquel tu faisais allusion tout à l'heure, qui s'appelle Le droit à la mort, qui est un livre qui revient sur le scandale suscité par la publication du livre Suicide, mode d'emploi en 1982, et qui fait le point sur la revendication du droit pour chacun de choisir dans la mesure du possible le moment et le moyen de sa mort. De mon point de vue, le point commun à tout ça, c'est évidemment la revendication de liberté, qui, dans mon esprit, prend la forme idéale d'une révolution sociale, c'est-à-dire d'un mouvement collectif, mais qui passe aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, par la révolte individuelle et l'aspiration à être le plus possible le maître de sa propre vie. Et dans l'idée d'être le maître de sa propre vie, il y a aussi l'idée d'être le maître de sa mort, étant donné que nous sommes des êtres mortels, comme personne ne l'ignore. Et donc ça fait partie de la perspective de la fin de la vie, fait partie de la vie elle-même.
Et donc, par rapport à ça, encore une fois, le fait de ne pas pouvoir, de pas avoir cette liberté, et d'appartenir à l'État.
L'État, comme dans d'autres domaines que nous avons abordés ce matin, souhaite garder un contrôle, en tout cas dans des régions de forte tradition catholique, comme notre pays. Dans d'autres, on glisse davantage vers une tolérance pour une euthanasie organisée, une euthanasie d'État, non pas au sens totalitaire nazi, mais où, avec un système d'autorisation, de commission, donc quelque chose d'assez pasteurisé, contrôlé certes, mais autorisé, c'est vrai dans des pays très proche de nous, en Suisse, c'est vrai en Belgique. La France, de ce point de vue, est un pays encore du Sud et donc encore très catholique. Et là, il y a une très forte opposition de la classe politique et des institutions contre l'ensemble de la société, où je suis persuadé que ces idées de droit à décider de sa mort sont aujourd'hui majoritaires. Mais on vérifie par cet exemple, comme par bien d'autres, que dans ce qu'on appelle la démocratie, qui est ce mode de régulation du système capitaliste, la démocratie se soucie pas tellement de l'opinion de la majorité, alors que c'est supposé être son mode de fonctionnement. Mais en fait, il s'en fiche pas mal. Donc voilà, je suis revenu donc sur ces deux thèmes qui me tiennent à cœur, la Révolution française et les enseignements qu'on peut en tirer pour une révolution qui se ferait aujourd'hui.
Tu disais qu'il y avait, tu avais cité des morceaux de textes de ces fameux enragés.
Oui, c'est vrai.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir, enfin là, en quelques mots, sur leur position?
Eh bien, écoute, j'ai retenu des textes qui concernent, d'une part, la commande, là aussi c'était une commande, l'idée c'était de faire le lien avec des thèmes actuels et en débat dans des mouvements sociaux. Donc j'ai retenu des textes qui concernent, d'une part, le thème de la vie chère, et des subsistances qui reprennent en tout cas à l'échelle mondiale
le prix du blé,
et oui, voilà, puisqu'aujourd'hui on spécule sur le riz exactement comme sur des produits boursiers quelconques.
Alors il faudra faire la loi des maximums.
Voilà. Les enragés étaient de chauds partisans du maximum, c'est-à-dire, pour les auditeurs qui sont pas familiers, de la Révolution française, une législation qui a été imposée, pour aller vite, par la gauche et l'extrême gauche, pendant la Révolution, qui instaurait un maximum des prix. Et ça répondait à des revendications et à des actions directes populaires, parce que le maximum était souvent imposé lors d'émeutes. Soit il y avait des pillages, soit il y avait des actions violentes, mais qui ne menaient pas à un pillage, mais à l'application d'un maximum. C'est-à-dire la foule fixait le prix, un prix qui lui paraissait raisonnable, soit pour des produits de première nécessité, c'est-à-dire soit du pain, soit des grains, soit du savon.
Parce qu'il y avait déjà des spéculateurs.
Oh, mais certes.
Alors, mais je ne sais plus comment les appeler.
Des agioteurs. Agioteurs, spéculateurs, monopoleurs. C'est les termes.
Peut-être, Claude, justement, parce qu'on va conclure avec ce qu'on annonce là par rapport à l'ensemble des grèves. Il y a beaucoup de grèves d'annoncer. Rappelez quand même par rapport à cette période la déclaration des droits de l'homme avec quelque chose qui a été évacué, c'est-à-dire le droit à l'insurrection. Quand une partie de la population, ses droits les plus élémentaires sont atteints par l'oppression, donc ils ont droit à l'insurrection, et on fait peut-être cette comparaison avec cette période de l'histoire et l'actualité en ce moment.
Et ça même est figuré dans une constitution qui n'a pas été appliquée.
La constitution de 1793. Et pour finir rapidement de répondre à ta question, les autres textes concernent le thème de la démocratie directe, qui est apparu dès, et pas seulement chez les enragés d'ailleurs, qui a été théorisé ensuite et repris par des enragés, mais qui est apparu dans la logique de la Révolution dès août 1789 dans les bagarres entre les districts, c'est-à-dire les arrondissements de l'époque, et la commune de Paris, les districts se battant pour une application stricte de la souveraineté populaire, c'est-à-dire mandat impératif, rappel possible des délégués.
C'est les bons côtés du mot démocratie.
Toutes sortes de démocratie directe. Toutes sortes de thèmes qui sont extrêmement actuels encore. Et également des textes sur le mouvement des femmes et sur ces militantes auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, qui ont formé des clubs de femmes et essayé de faire reconnaître, elles n'y sont pas parvenues, leur rôle dans la révolution, y compris leur rôle, les armes à la main dans les journées insurrectionnelles, et leur rôle dans la société. Là, elles ont été battu à l'intérieur même du processus révolutionnaire qui a commencé à se refermer en commençant par un certain nombre de groupes politiques d'extrême gauche ou de tendances politiques d'extrême gauche et en se référant sur les femmes. Tous les clubs de femmes ont été fermés radicalement et pour longtemps.
Et par la convention,
par le pouvoir d'État, oui bien sûr. Oui. Oui, bien sûr.
Donc Claude va rappeler, l'émission se termine, la première partie de Chronique Hebdo.